En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et grâce à notre appli dans le monde entier. Jacqueline avec Nicolas et Enzo aujourd'hui, je suis très bien entourée pour la technique. Bonjour Nicolas, bonjour Enzo. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'économie en direct, consacré ce matin à l'un de nos partenaires, l'ADPABAB, qui accompagne les entrepreneurs, les dirigeants et les acteurs économiques du territoire. Gestion des risques et des coûts dans les entreprises, évolution des habitudes de consommation, relations clients et accueil téléphonique, mais aussi des opportunités d'entreprendre dans le secteur de la rénovation. Grâce à ce partenariat, nous pouvons donner la parole à celles et ceux qui font vivre l'économie locale, qui innovent, qui entreprennent et qui créent de l'emploi. Et aujourd'hui, vendredi 13 mars 2026, j'ai le plaisir d'accueillir quatre des membres donc de l'ADPABAB. Cyril Coussergue, président de Finera Conseil et associé chez ERA, chez ERA France. Bonjour Cyril.
Bonjour Jacqueline.
Yvan Quintrec, société Classe Croûte. Bonjour Yvan.
Bonjour Jacqueline.
Sheila Pereira, société Depot. Bonjour Sheila.
Bonjour Jacqueline.
Et Julie Favre, Javori, agence Illico Travaux Montmorency. Bonjour Julie.
Bonjour Jacqueline.
Avec vous ce matin, nous allons partager votre expérience, votre vision et les défis auxquels vos métiers sont confrontés. Bienvenue dans l'économie en direct sur IDFM Radio.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Alors, peut-être un mot sur l'ADPABAB tout de suite, puisque c'est un de nos partenaires. Qu'est-ce qui veut nous décrire ce que fait l'ADPABAB parmi vous quatre?
Pour me lancer, je dirais que c'est un groupe d'entrepreneurs et de dirigeants de PME principalement, qui sont orientés vers les activités autour du Val d'Oise et qui essayent de s'apporter mutuellement des conseils, des idées, éventuellement des introductions commerciales ou fournisseurs, selon les cas.
C'est ça.
Le tout dans une excellente humeur.
Oui, oui, je crois Jean-Luc Mabou, donc son président actuel, donc ça a été créé par Philippe Écran, hein, l'ADPABAB, et Jean-Luc Mabou m'expliquait qu'il y a une grande solidarité aussi dans les membres de l'ADPABAB.
Oui, très forte, ouais. Très forte.
Julie, vous voulez dire un mot?
Ben, c'est vrai qu'ils ont cette envie de faire rayonner les entrepreneurs qui font partie de l'association et ça permet d'avoir des relations commerciales ou pas. Moi, j'ai pu participer à un projet comme ça sur une cuisine thérapeutique à l'hôpital d'Argenteuil.
Ah oui, c'est là qu'on s'est vu.
Tout à fait. Et le projet a été entièrement financé avec la trésorerie des 20 dernières années de l'ADPABAB. Donc, en fait, toute la trésorerie depuis la création a été mise dans ce projet.
Ah, oui.
Et c'était vraiment très important pour eux que ce soit aussi quelqu'un de l'association qui puisse réaliser ce travail.
Ouais.
Et donc, ça permet aussi de mettre en avant et l'ADPABAB et ses membres.
C'est ça, ça a été la chaîne de bout en bout, en fait.
Exactement.
Hein. Ouais, ouais. Très bien. Ben, merci, Julie, pour cette précision. Alors Cyril, je vous propose qu'on commence avec vous le tour de table.
Avec plaisir.
Peut-être quelques mots sur votre parcours.
Alors moi j'ai un parcours de contrôleur de gestion depuis très longtemps, de directeur financier depuis une vingtaine d'années, essentiellement dans le monde industriel, dans le monde des services. J'ai pas mal bourlingué en France, en Europe et un petit peu à l'étranger, enfin à l'international. Et donc voilà, ça fait quelques années que j'ai créé ma propre structure, donc Finera, qui est membre d'ERA France. Alors ça n'a aucun rapport avec le réseau franchisé bien connu de l'immobilier, aucune activité commune, aucun rapport.
C'est une coïncidence.
C'est une pure coïncidence, c'est une homonymie, comme on dit.
Ouais.
Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que nous faisons essentiellement? Eh bien en fait, nous sommes dans une logique d'accompagnement des PME et des ETI, donc je ne m'adresse qu'à des entreprises d'une taille minimum, dans l'optimisation de leurs coûts indirects et de l'amélioration de leur rentabilité. Alors, notre expertise, c'est quoi, en fait? C'est vraiment, on aide les directions financières et les directions générales à identifier des économies significatives dans leurs frais généraux. Où est-ce qu'on met la limite des frais généraux est un autre débat.
Oui.
Les frais généraux des uns sont pas forcément ceux des autres, et c'est normal et c'est pas grave. Mais voilà. Nous avons une quarantaine de catégories d'achats dans lesquelles nous pouvons intervenir. J'en cite juste quelques-unes, assurance, transport, énergie, télécom, nettoyage industriel, maintenance opérationnelle, etc., etc. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut aboutir à ce résultat? C'est la combinaison de trois choses. Une expertise métier, technique. Si vous connaissez ma spécialité personnelle, c'est l'assurance. Je suis professionnel de l'assurance.
D'accord.
Donc, une expertise métier, une expérience terrain. En général, nous avons quelques cheveux blancs. Pour vos auditeurs qui ne me voient pas.
On a des cheveux blancs parfois très jeunes.
On a parfois des cheveux blancs très jeunes, effectivement, mais il faut avoir un petit peu bourlingué pour se connaître un petit peu. Et puis, une méthodologie qui est prouvée depuis une trentaine d'années, qui est basée sur des principes simples. Et donc, avec ces trois combinaisons de trois facteurs, nous arrivons à trouver des économies très significatives.
Alors, donc, j'imagine que lorsque vous démarchez un client, vous proposez de faire un audit, c'est ça?
C'est effectivement ce que nous proposons. Mmh. Un audit, un premier audit, un mini audit, je dirais, gratuit, effectivement, pour voir s'il y a quelque chose à faire. Parce que autant le client peut être intéressé, mais il faut aussi que nous soyons aussi intéressés. Il faut qu'il y ait matière à travailler.
Oui,
voilà, c'est ça. S'il n'y a pas de matière à travailler, parfait. Voilà, on va s'arrêter là, effectivement. Donc, ça nous arrive de faire des audits, un premier audit assez simple en quelques semaines de tout le compte de résultats de l'entreprise, de toutes ses charges. On identifie ce que l'entreprise pourrait potentiellement nous confier. Mmh. On en discute avec, parce que le plus important, c'est de discuter avec le directeur général ou le directeur financier en face. Et suite à ça, on dit, là, on peut vous aider. Si vous ne voulez pas qu'on vous aide dans ce domaine-là, on met ce domaine-là de côté. Mmh. Ce domaine-là auquel nous n'avions pas pensé, mais qui pour vous est important, parce que dans votre cas, c'est important, on peut le faire, effectivement. Et voilà. Et après, on signe un contrat et on met en place les équipes pour le faire.
Comment est-ce qu'il y a des... Vous devez avoir peut-être des réflexes aujourd'hui, c'est-à-dire vous allez tout de suite sur certains postes?
Clairement, certains postes, il y a plus de matière... Dans certains domaines que dans d'autres, très clairement. Mon expertise personnelle du monde de l'assurance est un sujet qui est très peu maîtrisé par les DG et les DAF, en moyenne. Il y a des exceptions, mais en moyenne, c'est quand même la réalité. Et ils sont face à une analyse de risque qu'ils ont du mal à faire, ou qui est vraiment intuitive. Et une fois que vous avez fait votre analyse de risque, il faut la comparer par rapport à votre couverture en assurance ou en process interne à l'entreprise. Et quand vous avez des écarts entre les deux, au moins...
Oui, c'est qu'il y a...
Il y a toujours des écarts, c'est qu'il y a potentiellement un problème. Après, il faut évaluer la taille du problème, c'est ça. Une PME qui peut avoir un problème qui peut lui coûter 5 000 euros, si elle fait 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, c'est un vrai problème. Si elle fait 100 millions, c'est pas un vrai problème. Etc., etc., etc.
C'est ça, il y a des ratios comme ça qui sont
Il y a des ratios,
parlants.
Tout à fait. Mm-hmm. Et c'est très classique. Nos sujets les plus courants, ça va être effectivement les assurances, la flotte automobile. Bon, l'énergie, depuis quelques jours, c'est un petit peu compliqué, effectivement.
Bien
très,
sûr.
Très clairement.
Ouais, ouais.
Avec le golf
persique. Je crois
persique.
Que Engie va avoir regretté d'avoir baissé ses tarifs il y a quelques mois.
C'est fort possible, c'est fort possible,
mais
effectivement.
Mais bon, ça compensera la hausse qu'ils ont fait en 2023.
Voilà.
Cyril, donc vous dites que beaucoup d'entreprises se concentrent uniquement justement au niveau des assurances sur le prix de leurs assurances.
Ouais.
Et que selon vous, c'est une erreur.
Oui, selon moi, c'est une erreur parce que je vais prendre l'exemple d'une voiture. Si vous voulez acheter une voiture, le prix est un facteur, c'est clair, mais avant de savoir quel montant vous êtes prêt à mettre, encore faut-il savoir si vous voulez une 3 portes, une 4 portes, une 5 portes, une petite, une moyenne, une grande, une électrique, une diesel, etc., etc. Donc il faut d'abord définir les risques pour mettre en place des assurances qui sont cohérentes par rapport aux risques. Et le monde de l'assurance est ainsi fait que les professionnels de l'assurance sont rarement d'anciens dirigeants d'entreprise, d'anciens directeurs financiers, donc ils n'ont pas forcément cette culture industrielle. Ouais. Certains l'ont, bien évidemment, mais loin, c'est loin d'être le cas. Voilà. Et donc on se retrouve dans un cas où, en fait, le dirigeant est face à un agent ou un courtier d'assurance, et il ne parle pas le même langage. Donc il y a forcément des surprises, surtout que le dirigeant, soyons clairs, quand il a 200 pages de contrat à lire,
c'est sûr.
Il demande où est-ce qu'il signe.
C'est sûr, ouais. Donc vous, c'est là où vous êtes l'intermédiaire.
C'est là où je représente le dirigeant.
Parce que vous lisez les contrats?
Je lis les 200 pages.
C'est vous qui vous tapez
C'est moi qui lis les 200 pages. Au risque de paraître extrêmement vieux jeu, j'ai beaucoup de classeurs chez moi avec beaucoup de contrats imprimés. Parce que croyez-moi, lire des milliers de pages sur ordinateur, c'est juste invisible.
Je comprends.
C'est juste invisible. Voilà.
Et quels sont les risques les plus sous-estimés aujourd'hui?
Le risque cyber. Les assurances cyber sont vraiment quelque chose où il y a une vraie problématique qui monte. Du fait des hackers russes, chinois et israéliens et autres. Du monde entier, mais enfin certains pays sont plus spécialisés là-dedans, on va dire ça comme ça. Le risque cyber est un risque qui monte vraiment, et les PME de taille moyenne sont très souvent totalement désarmées face à ce risque. Donc il faut leur apporter une aide, non seulement en termes assurantiels, mais aussi en termes de sécurité informatique.
Oui, mais alors dans ce cas-là, c'est vous qui intervenez ou vous faites
un prestataire qui est l'assureur. Parce qu'en fait, l'assureur a dans ses équipes en interne, chez certains néo-assureurs, ils ont des équipes spécialisées en piratage informatique, pour faire simple. Et ça, c'est l'exemple typique de la bonne décision où l'assuré a intérêt à mettre en place un certain nombre de process de sécurité informatique. L'assureur, pour payer le moins possible de dommages, de sinistres, il a intérêt à avoir des équipes internes qui vont aider l'assuré pour limiter les risques et limiter le niveau des indemnités. Et donc on est dans le cercle parfait, je dirais, de les planètes sont alignées, tout le monde tire dans le même sens. Voilà.
Je m'adresse à mes trois autres invités, donc Sheila, Julie et Ivan. Est-ce que vous auriez l'idée de faire appel à une personne comme Cyril, Ivan?
Je pense qu'on n'a pas la taille d'entreprise requise, surtout que nous sommes dans les entreprises qui sont liées chaque fois à un site d'exploitation. Donc, je dirais que les problématiques de gestion et de maîtrise de coûts, en plus, c'est quand même très normé dans une franchise. Donc non, je pense qu'on n'est pas dimensionné pour ça.
Oui. Je rappelle que vous êtes dirigeante de plusieurs classes croûtes, hein, on en parlera tout à l'heure. Et vous, Julie?
Moi encore moins, parce que je suis toute seule.
Ah oui, d'accord.
Donc j'aimerais avoir ces problèmes vraiment et faire appel à vous, Cyril, j'aimerais. Mais j'ai pas
ça
encore
venir,
ces problèmes.
Peut-être.
Peut-être, c'est tout le mal que je me souhaite.
Merci, Julie. Et vous, Sheila?
C'est à partir de quelle taille
En général, nous intervenons, je dirais, à partir d'une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Néanmoins, on peut s'intéresser, selon les cas, à des entreprises un peu plus petites.
Si j'ai bien compris, hein.
C'est vraiment à la carte, ouais. Voilà, c'est ça. S'il y a un vrai sujet, j'ai pas de souci pour intervenir sur mon sujet ou sur des sujets d'autres de mes collègues. Mais c'est sûr, effectivement, mon collègue qui gère par exemple la flotte automobile, si vous lui dites j'ai trois voitures, il va me dire Cyril, t'es gentil, mais non, c'est pas une flotte, c'est juste trois voitures. Voilà, c'est ça.
Donc vous, Sheila, vous avez une flotte
petite,
de combien de voitures?
Il y a une voiture.
Alors je vous confirme, ça rentre pas dans ce cadre. Voilà, c'est vraiment trop petit.
Bon, j'aurais essayé, Cyril.
C'est gentil, mais je n'ai pas de souci pour vous donner, pour échanger quelques instants avec vous, bien sûr, pour sur les principes, voilà, sur ce qu'il faut absolument avoir, parce que vous avez raison de poser la question à partir de quel niveau, mais il faut que tous les dirigeants soient bien conscients que le risque, il existe même pour une PME de 500 000 euros.
Oui, oui, bien sûr.
Et elle coule plus facilement que les PME de 50 millions.
Bien sûr, oui, il n'y a pas les mêmes moyens. Je vous propose qu'on fasse une pause et on revient juste après avoir écouté Tal et le sens de la vie. À tout de suite.
J'ai voulu dormir et J'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil. Et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie. Je prends mon envol, mais je n'oublie pas les paroles d'une chanson. Je sais ce que je fais. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène. Deux sens en contresens, on se perd toujours. Quand on ne fait pas les choses avec un peu d'amour, c'est peut-être lui qui rend notre ambition fascinante. Il est dans ma voix, c'est pour ça que je chante. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la que je m'aime et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je m'aime et je l'aime. Même dans le ciel qui se voile, il y a toujours une étoile et nous guide sur le chemin de nos rêves. Et quand on y croit, un nouveau jour se lève. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime.
IDFM Radio, le média valdoisien.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Ce matin, une spéciale Ad Pavab avec à mes côtés quatre de ses membres, Cyril Coussergue, Ivan Quintrec, Julie Fabre et Sheila Pereira. Donc Cyril, on a bien compris que votre fer de lance était d'essayer de dénicher le poste qui coûtait cher dans une entreprise, en tout cas qui pouvait être amélioré.
Le poste qui coûte cher dans une entreprise et auquel les entreprises ne pensent pas spontanément.
N'ont pas pensé, oui,
pour reprendre le cas de ma voisine chez Glascroute, les achats de matières consommables, donc de tout ce qui est alimentaire, etc., c'est suivi de très très près et c'est sûrement totalement optimisé. Par contre, il y a plein de lignes en dessous dans le compte de résultat qui ne sont pas forcément, qu'on appelle généralement des frais généraux, qui sont très compliqués à suivre parce que très divers.
Ah oui. Okay.
Il n'y a rien de commun entre un contrat électrique et de la maintenance industrielle.
Bien sûr.
Et pourtant, chacune fait des petits montants. Mais quand vous les additionnez, ça fait des gros montants.
Ça fait, oui, des économies.
Voilà.
Alors, vous dites que votre méthodologie repose sur plus de 30 ans d'expérience. Qu'est-ce qui fait votre valeur ajoutée?
Alors, la méthodologie, le groupe a été créé initialement en Angleterre dans les années 90. Il s'est beaucoup développé non seulement en Angleterre, en Europe et dans le monde entier. Nous sommes environ 1 000 000 dans le monde entier aujourd'hui, 400 en Europe, une quinzaine, vingtaine en France. Qu'est-ce qui fait que la méthodologie a été prouvée? Elle a duré dans le temps, elle a prouvé ses résultats. Et je dirais c'est une méthodologie relativement simple. On commence par analyser l'existant, on valide avec le dirigeant, on propose des solutions. On valide la solution retenue par le dirigeant, on la met en place et on la suit pendant, en général, 3 ans. Et c'est là où il y a la différence avec du consulting classique, où vous aurez juste, un dirigeant va avoir une recommandation. Le plus caricatural, c'est le beau PowerPoint avec des dizaines de pages en couleur. Et à la fin, il y a une facture. Et puis, ben, vous n'avez plus qu'à mettre en place.
Sans assistance réelle.
Fréquemment sans assistance réelle. Mm-hmm. Nous mettons en place ce que le dirigeant a décidé. C'est lui qui décide. Mais c'est nous qui le mettons en place et nous lui transmettons l'expertise au fur et à mesure de notre passage
c'est
chez
ça,
lui.
C'est ça, vous l'accompagnez de bout en bout.
C'est un accompagnement, voilà.
Donc aujourd'hui, vous êtes quand même toujours à la recherche d'experts pour répondre à toutes les demandes que vous avez.
Très clairement, personne ne peut être expert partout, c'est juste pas possible. Donc nous
c'est
sommes toujours.
C'est même peut-être un gage justement de sérieux dans votre entreprise.
Tout à fait.
Parce que,
tout voilà. à fait. En fait, notre fonctionnement repose sur l'idée que nous avons des experts à temps partagé qui interviennent chez nos différents clients selon les desiderata des clients. Mais ils interviennent chacun chez plusieurs clients. Mais que pour le temps nécessaire du client. Et c'est là où cela permet d'avoir à la fois une expertise disponible pour des PME auxquelles elles n'auraient pas normalement accès ou en contrepartie de prestations extrêmement chères, on va dire. Et notre dernier point, ça va être le fait que, comme nous sommes dans une logique de partage et de notre expertise et de transmission de compétences, nous ne facturons
que ce que vous faites
sur les économies déjà réalisées dans la compta du client.
D'accord.
Pas sur un truc théorique. Une fois que les économies sont encaissées par le client, enfin, en l'occurrence, une fois qu'il a moins décaissé, on va dire ça comme ça, nous partageons les économies avec lui. Donc, si nous ne trouvons rien,
c'est ça.
Il m'offre un café, ça s'arrête là.
Son retour sur investissement, il se fait vraiment.
Il est forcément parfait.
Oui, en tout cas, la deuxième année, puisqu'il a mis en place ses économies et puis.
En général, on trouve les économies au bout de, on va dire de 3 à 4 mois selon les cas concrets de chaque client. Et les économies, lui paye notre prestation.
C'est ça.
Et au bout des 3 ans, nous partons et garde bien évidemment 100% des économies,
ses économies
et du transfert d'expertise.
Vous-même, Cyril, vous avez un secteur bien particulier où vous
France entière.
France entière, d'accord. Okay.
Je peux intervenir sur toute l'Europe si besoin.
Très bien. Et c'est le cas?
Ça peut être le cas. J'ai un sujet en cours où ça sera probablement le cas, effectivement, parce que pour certaines tailles d'entreprise. Dans le monde de l'assurance, vous avez des programmes d'assurance européens.
D'accord.
Et ça a un sens d'harmoniser les assurances, certaines assurances, pas toutes, et je rentrerai pas dans le détail, au niveau européen. Voilà.
D'accord. Alors, vous avez une actualité, puisque Air France sera présent à Marseille.
Oui, effectivement, merci de me le rappeler, nous participons à Top DAF Marseille le 19 et le 20 mars, donc dans quelques jours. Pour rencontrer certains clients, des prospects, et exposer ce que nous pouvons faire un petit peu de la même façon que je viens de le faire à ce micro.
Très bien.
Voilà.
Cyril, une dernière question que je poserai à vous quatre. Vous faites partie de l'ADPAVAB. Depuis quand et puis pourquoi avoir rejoint ce réseau?
Alors, je l'ai rejoint il y a environ en 2025, donc c'est relativement récent, mais j'en avais entendu parler avant, via des connaissances communes. Et donc, pourquoi je l'ai rejoint? Parce que c'est un réseau qui est relativement orienté industriel Val-de-Seine, on va dire ça comme ça, du côté de Gennevilliers et autour. Le réseau, je suis allé à 2-3 réunions pour voir, l'atmosphère. Et l'atmosphère me plaisant, je me suis dit que ça pouvait être cela pouvait être intéressant pour moi. Je pouvais apporter ma pierre à l'édifice et d'autres pouvaient m'apporter éventuellement des compétences particulières, etc.
Très bien. Merci beaucoup Cyril Coussergue, président de Finera Conseil et associé chez Air France, pour ces éclairages très utiles pour les dirigeants d'entreprise. Merci à vous. On marque une nouvelle pause et cette fois c'est avec Bachoum qui nous accompagne avec son titre Ma petite entreprise.
Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. m'accuse, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances. Abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe, qu'importe l'amour s'exporte, qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos, là j'y coule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, ces bâtiments B, à l'oreille de ses lèvres. Mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et exhibe des trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct ce matin sur IDFM Radio, une émission consacrée à l'APAVAB, notre partenaire, dans laquelle je reçois Cyril Coussergue de la société Finera Conseil, Ivan Quintrec de la société Classe Croûte, Julie Fabre-Javory de l'agence Illico Travaux Montmorency et Sheila Pereira de la société De Pau. Ivan, focus sur vous. Donc, j'ai compris que vous étiez une chef d'entreprise hors pair, c'est ce qui m'a été rapporté. Donc, Ivan, peut-être quelques mots aussi sur votre trajectoire.
Sur oui, un parcours universitaire et puis commercial. La chance d'avoir travaillé dans quelques entreprises de tailles différentes. Et puis la conclusion que rien n'était fait pour moi et qu'il fallait absolument créer l'entreprise. Et puis rejoindre un petit peu le hasard fait bien les choses et rejoindre une marque, une enseigne nationale qui ne comptait à l'époque une dizaine de points de vente et qui a bien grossi depuis puisque nous sommes plus de 100 restaurants et points de vente. Et cette aventure a commencé il y a bien longtemps, en 94, sur un coup de tête, et puis la chance d'avoir rencontré des franchisés Classe Croûte, à l'époque déjà installés en Seine-et-Marne.
Vous étiez allé au salon de la franchise?
Pas du tout. Ma sœur a répondu à une petite annonce parce qu'elle cherchait un emploi pendant qu'elle faisait ses études, et cette annonce c'était un poste de standardiste à mi-temps dans le Classe-Croûte de Seine-et-Marne. Et lorsqu'elle m'a dit regarde, j'ai trouvé un emploi dans une franchise, ce qu'ils font c'est très original parce que c'était extrêmement novateur à l'époque. Et j'ai dit ah, on s'arrête là, c'est ça. Voilà, et je savais qu'on avait trouvé on venait de trouver ce qu'on allait faire. Donc elle a quitté son poste, on s'est formé bien sûr et surtout on s'est associé et on a démarré cette aventure en 94 à Gennevilliers, donc dans le bassin industriel, donc de proximité. Et l'aventure a commencé.
Mais donc à l'époque, parce que prendre une franchise, ça a un coût. Il faut avoir quelques économies.
Alors les temps ont aussi bien changé. C'est effectivement le cas aujourd'hui. Bon, tout dépend aussi de la taille de la franchise, mais à l'époque, les fondateurs étaient aussi des aventuriers des temps modernes et ils nous ont en réalité extrêmement favorisé l'ouverture de la franchise. C'était pas non plus les mêmes critères d'ouverture. À l'époque, on avait surtout un service de livraison et une petite vente à emporter. Aujourd'hui, effectivement, il y a des restaurants qui demandent beaucoup plus d'investissement. Mais ils nous ont aidés. Finalement, tout le monde nous a aidés, tout le monde s'y est mis et nous avons ouvert avec très peu de moyens. J'ai eu aussi la chance d'avoir un prêt d'honneur de la part du 92, ce qui m'a beaucoup aidé aussi à l'époque. Mais nous avons démarré avec très peu de moyens. On a eu uniquement besoin de 250 000 euros pour démarrer, ce qui était quand même un peu une prouesse.
Oui, oui, oui. Et puis oui, vous avez pu emprunter. Le prêt d'honneur a dû favoriser.
Oui, oui, bien sûr, exactement. C'était 1-1, donc le prêt d'honneur plus ensuite des fonds propres et puis c'est parti. Puis surtout c'est parti tout de suite. Donc ça a marché tout de suite. On n'avait pas de choix. Oui. Il fallait que ça décolle immédiatement. Et c'est ce qui s'est passé.
C'était le cas.
Il a même fallu appeler à la rescousse beaucoup de gens parce que on a été un peu débordés au départ. Mais ça s'est donc très très bien passé.
Et pourquoi le domaine de la nourriture ?
Bah, le domaine de la restauration, surtout livré en entreprise, ce qui était extrêmement nouveau. Le domaine de la restauration ou de l'alimentation en général m'a toujours de toute façon intéressé. Et là, la conjugaison du commerce, la proximité et de l'alimentation équilibrée et saine pour les salariés des entreprises, c'était vraiment pour moi un chemin gagnant et la franchise permettait aussi de dupliquer extrêmement rapidement ce concept, ce que j'ai fait, puisque après j'en ai ouvert un quasiment tous les 3 ans, de façon à pouvoir se développer sur le territoire et surtout occuper le territoire de proximité qui est un territoire extrêmement riche.
Oui. Donc ça veut dire que très très rapidement vous avez remboursé ce prêt pour pouvoir faire essaimer.
Vous savez, après dans un concept montant, les banques suivent, tout le monde se mobilise parce que ça marche. Donc ça a été très facile.
Et vous avez fait vos preuves et donc.
Oui, c'est ça. On a eu des partenaires bancaires qui ont joué le jeu, qui voyaient bien que cette franchise avait le vent en poupe. Donc les fonds n'ont jamais vraiment été un sujet.
Et donc aujourd'hui vous-même, donc vous êtes à la tête de plusieurs classes côtes, combien ?
Oui. Donc 4.
4, oui. Vous êtes dans l'un d'entre eux ou vous faites que de la gestion peut-être ?
Non, je ne fais que de la que du pilotage en réalité. Hein, j'ai la chance d'avoir de très bonnes équipes qui s'occupent de toute la partie opérationnelle. Donc aujourd'hui nous sommes une vingtaine environ répartis dans les points de vente et j'ai une collaboratrice au bureau qui s'occupe de toute la partie administrative financière. Et on fonctionne donc de cette façon-là avec des responsables de site.
Alors aujourd'hui, les habitudes de consommation évoluent. Quelles sont les nouvelles attentes des salariés au moment du déjeuner ?
Ça, c'est une vaste question. On aimerait bien qu'ils aient beaucoup plus d'attentes et qu'ils soient donc beaucoup plus dans l'entreprise. Parce que depuis la période Covid, c'est quand même extrêmement particulier. Le monde change, mais à notre goût, il change un peu trop vite, j'ai envie de dire.
Ça veut dire que vous avez du mal à gérer les...
C'est-à-dire surtout que le marché en tant que tel, les gens étant à la maison 2 ou 3 jours par semaine pour certains, bien, il est évident que la prise de repas en entreprise est moins fréquente. comme en plus tout le monde s'est mis à cuisiner partout tout
c'est
le
vrai,
temps
oui, pour...
bon, donc je prépare ma petite gamelle et le lendemain eh bien je finis les restes au bureau
donc vous,
et bien
vous
le restaurant ou bien avec la scout
vous détestez Instagram et
c'est
compagnie
ça. Donc le syndrome de la gamelle ne me plaît pas du tout évidemment mais il est là aussi et ensuite ben on a envie de retrouver aussi ses collègues si on tombe le même jour qu'eux, ce qui n'est pas toujours évident, pour aller quand même au restaurant. Donc on imagine aussi une sortie au restaurant au moins une fois dans la semaine. Donc aujourd'hui oui, la problématique c'est surtout cette mutation du cycle de travail et le temps qu'on accorde aussi à la pause déjeuner. Donc là nous sommes vraiment dans le tempo, mais néanmoins tout se réduit et là il faut aussi en prendre et il faut le prendre en considération.
Donc vous avez modifié votre stratégie, comment avez-vous fait?
On est en train de changer certainement beaucoup de choses au niveau des structures d'accueil aussi, certains points de vente sur tout le territoire national qui avait peut-être deux ou trois satellites, on réduit, on en fermait certains, ce qui est juste tout à fait normal. Et ensuite, il faut mettre vraiment l'accent sur le service. C'est notre particularité quand même, reste d'apporter ce service de livraison, d'accueil, de proximité dans nos restaurants et ce service de 10h à 14h sans des frais de livraison absolument délirants qui parfois excèdent même ce qu'on mange. Donc on a nos propres salariés, on assure nous-mêmes la livraison et vous pouvez commander chez Classcroute de 10h à 14h comme vous le souhaitez et vous êtes livré en 45 minutes.
Oui, et puis alors, à travers ce que vous dites par rapport au Covid, je pense que ce qui doit aussi déstabiliser, c'est ces nouvelles marques de livraison.
Bien sûr.
Donc, on ne citera pas, mais bien connues aujourd'hui.
Qui sont là, voilà, plus des compétiteurs qui ont aussi émergé, et qui surfent sur le digital, sur du service dans les entreprises qui n'existait pas non plus auparavant, et qu'il faut aussi le prendre en compte, et s'adapter, effectivement, et surtout apporter autre chose, et apporter ce plus qui manquera nécessairement par la suite. Le service reste pour nous vraiment le maître mot. Et puis, on n'a pas toujours envie d'avoir des robots en face. On n'a pas toujours envie de mettre sa pièce de monnaie ou bien sa carte bleue quelque part. Donc, c'est aussi bien d'avoir un contact téléphonique et puis de pouvoir rencontrer des vrais gens des vrais restaurants.
Bien sûr. Je m'adresse à vous trois. Vous faites appel à des restaurants comme Classcroute, Julie?
Alors non, pareil, toujours parce que je suis toute seule, donc oui. Non.
Julie, elle cuisine.
Non, mais j'ai fait appel dans mon ancienne vie. Quand j'étais à la direction marketing, quand on a les plateaux repas de réunion, je pense qu'on a déjà fait appel à Classcroute. Et c'est pas mal parce que c'est vrai que ça simplifie beaucoup de choses quand on doit organiser, planifier une réunion où on est 20 autour de la table. Si chacun va se chercher son petit sandwich ou son petit truc, on perd beaucoup de temps.
C'est ça.
Donc dans l'optimisation du temps, ce type de service est quand même très important.
Sachant que je crois qu'il y a une attention particulière sur l'équilibre alimentaire chez Classcroute.
Oui, et puis une variété, une variété très très large qui permet de couvrir vraiment la restauration au bureau du matin jusqu'au soir, puisqu'on livre les petits déjeuners, on livre effectivement les pauses, les plateaux repas. Et on livre aussi les déjeuners pour les salariés à titre individuel. Ce qui reste aujourd'hui très compliqué, en fait. Beaucoup de gens cherchent à se faire livrer, mais on leur dit toujours, il faut que vous soyez plus nombreux. Nous, on livre le salarié de façon individuelle. Et la gamme étant extrêmement large, on répond à tous les besoins. Et l'équilibre alimentaire est chez nous, effectivement, l'importance, c'est la partie majeure.
Alors, si je peux me permettre, peut-être que j'ai l'impression que vous manquez de visibilité au niveau de ce service, parce que moi, j'ignorais que vous livriez. Voilà. Je pensais que c'était un restaurant dans lequel on se rendait, et vous voyez ce que je veux dire?
Ah, là, peut-être donc, qu'effectivement, voilà. sur... notre chère fonction commerciale, oui. Il y a peut-être en effet
mais
des choses à faire.
Mais peut-être que je suis une
non, vous avez
une exception, hein,
vous n'êtes non certainement pas l'exception, mais je crois aussi que c'est toutes ces dernières années nous avons eu la chance d'avoir énormément de clients sur place en livraison et peut-être que nous n'avons pas ressenti avant Covid, la nécessité de mettre l'accent sur le volet commercial, ce qui est aujourd'hui notre maître mot. Hein, donc toute l'action qui arrive là dans les mois prochains, c'est exactement ça, c'est cette fonction commerciale. Et puis aussi, entre la gamelle, on a aussi un autre phénomène, c'est que c'est un réseau qui a plus de 30 ans. Et depuis 30 ans, il s'est quand même passé beaucoup de choses dans les entreprises et les consommateurs qui nous connaissaient et qui nous commandaient ont aussi, pour certains, quitté les entreprises, fait autrement, travaillé différemment. Donc, on a besoin aussi aujourd'hui de relancer absolument, cette activité et de récupérer et de la notoriété et puis de la visibilité effectivement en entreprise.
Mm-hmm. Je crois que vous avez une application maintenant pour commander.
Cette application, elle est dédiée en réalité à ce qu'on appelle la e-cantine, qui est effectivement la commande groupée dans les entreprises. Donc c'est un service en plus, mais qui ne remplacera effectivement pas ce service très unique que nous apportons tous les midis de 10h à 14h.
Cyril et Sheila, vous faites appel.
Je crois que j'ai été probablement dans la toute fin des années 90. Je travaillais chez Peugeot et Citroën et c'était l'un des premiers, une première grosse entreprise qui faisait appel au service du classe croûte de l'époque. Et je vous confirme que très clairement, on a vu la différence entre avant et après, en termes de qualité, en termes de goût, en termes d'équilibre, etc. Oui, effectivement, il y a probablement un problème au niveau lié au changement des habitudes alimentaires des gens suite au Covid. Alors peut-être qu'un axe de développement pourrait être d'essayer de pénétrer plus fortement tout ce qui est espace de coworking, qui se développe beaucoup et qui remplace un peu en partie le télétravail, mais pas totalement. C'est probablement l'un de vos axes stratégiques du moment, mais ça c'est vous qui avez la réponse et pas moi.
Et vous, Sheila?
Nous, nos locaux étaient voisins avec un classe croûte, nos anciens locaux. Donc, on y allait quand les filles étaient... Enfin, je dis les filles, je travaille qu'avec des filles, mais on allait manger tout ensemble au classe croûte. J'ai toujours ma carte fidélité.
Il n'y a plus qu'à.
Avec des points, et des petits trous.
Non, et puis Finera va probablement...
Voilà.
Parce que j'imagine que vous avez des contrats à l'année avec les entreprises.
Oui. Alors, on répond, oui. Il y a du référencement, on répond aussi à des appels d'offres, mairie et autres. Et on a en effet un flux en fait très régulier avec les entreprises de proximité. Puisque c'est quand même notre fer de lance, c'est d'être installé vraiment de façon très très proche
c'est ça,
de toutes les
entreprises.
D'être
vraiment à proximité.
Voilà, en cœur de zone.
Alors là, pour nous donner envie d'aller chez Classe Croûte, vous avez une nouvelle carte printemps-été qui va sortir bientôt.
Oui. Qui sort bientôt avec beaucoup de nouveautés sur cette carte adaptée à la saison et très très haute en couleur et en goût et en recettes nouvelles.
Très bien. Et alors vous aussi vous avez une actualité, vous allez être au salon de la franchise les 14, 15 et 16 mars, c'est-à-dire
exactement, tout à fait, donc le week-end prochain et il y aura beaucoup de franchisés aussi sur le stand de façon à distribuer la bonne parole
Et pourquoi vous êtes sur le salon là dans le cas présent?
Alors pourquoi Classe Croûte? Parce que Classe Croûte,
c'est pas vous.
Non, c'est Classe Croûte qui recrute des talents, qui recrute de futurs franchisés et qui souhaite aussi être accompagné par des franchisés actuels. C'est vrai que c'est tellement facile de parler de Classe Croûte quand on est dedans, donc c'est beaucoup plus simple. Et puis c'est important aussi d'avoir ce que font les autres. Donc on sera aussi présent pour aller un petit peu voir qui émerge, qui commence à sortir du lot et faire un petit peu notre marché quand même au salon de la franchise.
Donc si je pose la question à nos auditeurs, auditrices qui ont envie d'ouvrir un classe croûte, c'est pas un problème pour vous?
Non.
Au contraire.
Non, au contraire.
Et il faudrait, il faut demander combien de financement aujourd'hui?
Pour un classe-croûte moyen, il est nécessaire d'avoir 200-250 000 euros.
D'accord.
Tout dépend
de l'emplacement.
De l'emplacement, et puis aussi de ce que la personne va développer. Mais je dirais qu'il faut quand même que ce soit un peu confortable, donc il faut ça. Et puis il faut une bonne expérience commerciale, et puis il faut surtout quand même avoir envie de cuisiner, envie de s'investir dans la cuisine, sans pour autant être un chef, mais il faut quand même...
Aimer préparer.
Il faut aimer, voilà, il faut aimer ce secteur-là. Je crois que c'est quand même là un peu le maître mot.
Bon, mais écoutez, ça va. Vous nous avez donné envie d'ouvrir un classe-croûte. On va y réfléchir.
Avec plaisir, venez nous rencontrer.
Dernière question, Ivan, pourquoi la PAVAP?
Alors la PAVAP, parce que d'abord je fais partie de beaucoup de clubs d'entreprises de proximité, parce que là aussi c'est vraiment le maître mot du développement et du contact. Et la PAVAP parce que je livre aussi sur Argenteuil et que la PAVAP est un assez incontournable, est un club extrêmement dynamique qui apporte beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges et très variés. Mm-hmm. Il y a une typologie de clientèle, enfin de d'adhérents extrêmement diverses et c'est incontournable.
Oui, oui, voilà. Très bien. Ben merci beaucoup Ivan Quintrec, chef d'entreprise à la tête de plusieurs établissements classe-croûte. Merci pour ce témoignage qui nous permet de mieux comprendre les évolutions de la restauration d'entreprise. Allez, on se fait une petite pause à nouveau et là on va écouter Big Flo et Oli avec son titre Alors.
Alors, dis-moi que t'es resté avec elle. Tu me disais c'est la bonne et bordel qu'elle est belle. On refaisait le monde sur le canapé de l'appart. Maintenant je voudrais savoir où tu te caches sur la carte.
Alors, on s'est promis de pas se lâcher. Alors, et je crois bien qu'on s'est raté. T'as changé de numéro ou t'avais pas envie de me parler quand je t'ai appelé, hein?
Alors, est-ce que t'as fini tes études? T'avais plein de rêves, mais juste pas assez d'une. J'ai une liste de tout ce que je voudrais dire. Toi qui réponds des présents quand on parlait d'avenir.
Alors, on devait faire le tour de la terre. Tu sais, moi ma valise est encore prête. Et si jamais tu nous reviens, est-ce que je vais te reconnaître? Faut pas qu'on laisse mourir nos promesses, non.
Alors, t'es où? Tu manques, c'est fou, j'y pense. Chaque jour, je te vois partout. Ils disent que tu reviendras pas, que t'es malade, que t'es mort. J'aimerais que tu sois là, juste pour leur donner tort.
Alors, dis-moi qu'est-ce que tu deviens? C'est vrai, ça fait longtemps. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu deviens? C'est vrai, ça fait longtemps, tu dis rien. J'ai cherché dans le quartier, mais non. J'ai fait le tour de la terre, mais non. J'ai demandé à ta mère, mais non. Pas de nouvelles. J'ai attendu tout l'été, mais non. J'ai espéré tout l'hiver, mais non. Mais comme dit le proverbe,
bonne nouvelle. Alors, t'es parti chercher ton Eldorado? Tout le monde t'adore, en ce qui fait à mort. T'es peut-être à Bora Bora, en maillot ou en tong. Si c'est une de tes blagues, celle-là, elle est trop longue.
Alors, commencez ailleurs. J'attends un SMS ou un pigeon voyageur. Y'a encore nos tags sur le banc, lisible et entier. Faut que tu vois comme la ville a changé.
Alors, tu sais que je suis un peu râleur. T'as toujours du retard, t'étais jamais à l'heure. Allô, y'a comme une latence. C'est plus que du retard là, c'est une absence.
Alors, des nouvelles, même si elles sont mauvaises. J'ai fait tous les hôpitaux, appelé tous les hôtels. Si t'en as marre, dis-le moi en face cash. Tu sais, j'ai passé l'âge de jouer à cache-cache.
Alors, faut que tu sortes de ta planque. On suffoque dans la pente, on supporte plus l'attente. J'en ai marre, et t'as tellement le dénouement. Est-ce que ça te plaît de savoir que tu nous mens?
Alors, dis-moi qu'est-ce que tu deviens? C'est vrai, ça fait longtemps. Alors, dis-moi qu'est-ce que tu deviens? C'est vrai, ça fait longtemps que tu dis rien. J'ai cherché dans le quartier, mais non. J'ai fait le tour de la terre, mais non. J'ai demandé à ta mère, mais non. Pas de nouvelles. J'ai attendu tout l'été, mais non. J'ai espéré tout l'hiver, mais non. Mais comme dit le proverbe, bonne nouvelle.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
C'est l'économie en direct jusqu'à 11h et ce matin j'accueille quatre membres de la PAVAB, notre partenaire. Cyril Cousserc, Société Finera Conseil, Ivan Quintrec, à la tête de plusieurs classes croûtes, Sheila Pereira de la Société De Pau et Julie Fabre Javori, c'est pas facile, non, de l'agence Illico Travaux Montmorency. Sheila, merci d'être avec nous dans le studio. Alors peut-être pouvez-vous nous expliquer, vous êtes une dirigeante qui évolue dans le domaine de la relation client et de l'accueil téléphonique, un service qui est, on peut dire, devenu stratégique pour les entreprises.
Oui, alors stratégique parce que ça peut aider une secrétaire qui est sur place, une standardiste. Ça peut lui permettre de faire d'autres tâches qui vont avoir plus de valeur ajoutée pour la société. Donc, oui. Après, il y en a beaucoup qui hésitent. Oui, j'ai pas beaucoup d'appels. Je peux me débrouiller tout seul. Mais au final, une fois qu'ils essayent le service, ils se rendent compte que finalement, ils ont beaucoup plus d'appels que ça. Et c'est un gain de temps énorme. Parce que tout ce temps qu'on passe au téléphone, c'est du temps qu'on peut passer à faire autre chose qui peut nous apporter beaucoup plus.
Et puis peut-être que c'est votre entreprise apporte un accueil téléphonique personnalisé.
Tout à fait.
C'est plus, par rapport au disque qu'on entend, faites le 1, faites le 2, faites le 3.
Ah oui, non. Oui. Non, c'est vraiment une personne qui répond au téléphone. C'est une personne qui répond et c'est personnalisé et c'est vraiment à la carte, c'est selon le client. Voilà, plusieurs clients qui font le même métier peuvent avoir un service différent selon leurs besoins. Mmh. Et on s'adapte vraiment à leurs consignes, à leur agenda, à leurs demandes.
Et alors vous, comment êtes-vous tombée dans ce domaine de l'accueil téléphonique ?
Alors tout à fait par hasard, je sortais de la fac et je voulais faire une école. Donc j'avais besoin d'un petit peu d'argent, donc je me suis retrouvée à côté de chez moi. Il y avait la société De Pau qui existait, qui cherchait une standardiste, donc je me suis retrouvée là-dedans. Donc j'ai commencé à répondre au téléphone et en fait j'aimais pas trop ça, répondre au téléphone.
Ah, c'est le comble.
Et en fait, mon employeur de l'époque s'est rendu compte que j'avais peut-être une capacité de faire autre chose. Il a commencé à me donner un petit peu plus de responsabilité et puis il m'a fait évoluer dans la société jusqu'au moment où il est parti à la retraite et il m'a dit écoute Sheila, ça serait bien que tu rachètes ma boîte. Donc, je me suis associée avec son fils et du coup, on a racheté sa boîte il y a 8 ans.
Ah, super.
Voilà. Formidable. Comment je suis arrivée là par hasard.
Oui, donc c'est une belle évolution. Donc,
tout à fait. Ouais.
Et aujourd'hui, vous êtes combien dans cette entreprise ?
Alors, il y a 8 personnes qui répondent au téléphone et moi qui gère l'ensemble.
Et la cible de vos clients, quelle est-elle ?
Alors, historiquement, on était très profession libérale, donc beaucoup de médecins, d'avocats. Oui, quand on appelle son médecin, on tombe sur une plateforme comme la mienne, par exemple. Oui. Voilà. Et quand on a racheté, donc avec mon associé, on a voulu... Doctolib est arrivé. Oui. Donc, on a voulu un petit peu ouvrir à d'autres personnes. On avait quelques sociétés, mais là, on est vraiment travaillé sur l'ouverture aux sociétés, leur faire comprendre que notre service n'est pas que pour les libéraux, mais vraiment le petit artisan qui peut pas répondre au téléphone parce que il est en train de travailler, le mécanicien qui a les mains dans le moteur, il a quelqu'un qui peut répondre au téléphone et c'est comme ça qu'on s'est attaqué à toutes les sociétés et leur expliquer que notre service est ouvert à tous.
Oui, parce que donc financièrement, c'est vous le gérez comment par rapport à un artisan et une entreprise plus importante c'est à l'appel.
C'est des forfaits au nombre d'appels.
D'accord.
Donc nous on commence à un forfait à 20 appels par mois, donc c'est un appel par jour. Donc c'est vraiment adapté à l'artisan.
D'accord.
Qui débute, par exemple.
Oui, c'est bien. Pour un coût, vous pouvez donner des idées de tarifs, toujours par rapport aux nos auditrices et auditeurs.
Oui. Alors après, on a des forfaits avec ou sans engagement, donc ça peut aller, on peut commencer à 45 euros, par exemple, un forfait de téléphone.
Donc ça reste, c'est tout à fait abordable. Un abonnement de téléphone, finalement.
Voilà. Ah, ouais. Au lieu d'embaucher quelqu'un.
C'est légèrement moins cher qu'un standardiste.
Oui, parce que c'est à la demande, il n'y a pas de charge sociale. Donc,
voilà.
Bien sûr.
Et comme il y a toujours quelqu'un, même pendant pendant les vacances, il répond. Même quand il est malade, il répond.
Et donc, ça fait partie des conseils que vous...
Ça peut faire partie d'une proposition qu'on pourrait faire pour certains de nos clients, effectivement. Sûr, aujourd'hui, vous avez deux personnes à temps plein à l'accueil. Ouais. Peut-être qu'avec une seule plus un service annexe, ça ferait plus de sens, finalement. C'est un exemple. C'est vraiment du voilà.
Après, on fait aussi beaucoup du débordement.
Oui.
Donc, quand il y a trop d'appels, justement, on aide.
Oui.
Ou du complément. Quelqu'un qui a un standard téléphonique peut avoir... enfin, nous, on fonctionne de 8h à 20h.
Mm-hmm.
Et le standard de quelqu'un où il y a un salarié va pas fonctionner de 8h à 20h. C'est pas possible.
Bien sûr.
Légalement, c'est pas possible. Donc, bah, nous, on peut compléter justement avant qu'il arrive sur sa pause déjeuner.
Il va pas être taxé, le téléphone.
Voilà. Une fois qu'il est parti, bah, quelqu'un peut le remplacer. Voilà. Donc, on peut être en complément aussi. Le but n'est pas de virer les gens, mais de les aider.
Bien sûr, bien sûr. Alors, vous, ce que vous regrettez quand même, c'est que vous dites que votre travail est parfois réduit à du simple secrétariat, alors qu'en fait, ça va bien au-delà. C'est ce que vous nous expliquez.
Oui, oui, tout à fait. Souvent, c'est « vous êtes que la secrétaire ». Ben non, je suis pas que la secrétaire. Je suis vraiment là pour aider le client et lui faire gagner beaucoup de temps. C'est surtout ça.
Mais, Et donc, les besoins aujourd'hui de votre profession ? Est-ce qu'il y en a ?
Ben justement, c'est retirer ces barrières des gens qui disent ben non, j'ai pas besoin, j'ai pas beaucoup d'appels, et puis ben j'ai pas les moyens, ben c'est pas si cher que ça. Et c'est vrai que ne pas être dérangé quand on est en rendez-vous, quand on est en réunion, quand on est en vacances, ben c'est bien.
Bien sûr, bien sûr.
Et quand on est sur une tâche où on est vraiment concentré, être dérangé trois fois par le téléphone, vous allez dire c'est que trois fois, mais non, c'est être coupé. Mm-hmm. Ça veut dire des fois pour rien. Et puis revenir, donc recommencer ce qu'on était en train de faire. Et à la fin de la journée, on a perdu un temps incroyable.
Bien sûr. Et donc, vos forfaits démarrent ce que vous disiez, à un appel par jour.
Voilà, c'est 20 appels par mois.
Si la personne,
c'est à peu près un appel par jour.
Un appel, c'est rentable.
Oui, tout à fait.
Ivan,
tu gères aussi l'agenda ?
Je gère aussi les agendas pour ceux qui le souhaitent, tout à fait.
Ça vous ouvre des perspectives, Ivan ?
Non, mais je me demandais justement si la prestation couvrait aussi la gestion de l'agenda.
Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que vous-même, on vous commande par téléphone aussi, Ivan ?
Oui, par téléphone, mais surtout maintenant par sur le site internet avec un paiement sur site. Mais effectivement, on a aussi beaucoup d'appels pour des demandes d'aide pour les devis, pour surtout les prestations de traiteurs, tout ce qui est cocktail.
D'accord, oui. Donc vous pourriez peut-être éventuellement faire appel à Sheila.
C'est assez technique, in fine, mais on peut réfléchir.
Pourquoi pas. Et vous, Julie, on a compris, vous êtes toute seule.
Ouais, mais je trouve que c'est très intéressant. Elle a soulevé quelque chose qui même toute seule, est très intéressant. C'est le fait d'être concentrée sur une tâche et d'être dérangée. Et c'est vrai qu'on se dit qu'il y a un manque de productivité quand on est sur un truc. Le téléphone sonne, hop, on en sort, on répond au téléphone. Oui. Peut-être on va sur autre chose avec l'appel. Et en fait, on perd vraiment le fil. Et se remettre trois fois dans la tâche qu'on était en train de faire, c'est on a
un peut y avoir un vrai gain de temps.
Et c'est vrai que là-dessus, c'est quelque chose qui s'entend et que je trouve réel aujourd'hui dans nos quotidiens.
Dans notre société.
Moi, quand je suis sur un chantier, c'est toujours compliqué de dire au client, attendez, excusez-moi, il faut vraiment que je prenne cet appel. Bon, bah, si c'est quelqu'un d'autre qui le prend et que je rappelle après, ça marche aussi et ça évite, je trouve, beaucoup de situations pas simples. Et pour les artisans, pareil. Moi, mes artisans qui passent leur temps au téléphone sur les chantiers, ça m'agace. J'en ai un particulièrement qui est greffé à son oreillette et pendant qu'il bosse, il papote. Et il me dit, bah oui, mais c'est du business qui arrive. Bah ouais, mais là, en fait, t'es en train de travailler. Donc t'es pas concentré
sur
ce que tu fais.
La même attention.
C'est ça. Donc je vais conseiller Sheila à tous mes artisans. Surtout celui-là.
Mais surtout qu'en plus, comme c'est à la carte, le client peut dévier quand il veut, en fait.
Oui, en plus.
Du téléphone, il fait un transfert quand il est occupé, quand il répond pas, voilà.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment à la carte.
Donc je peux décider de prendre mes appels.
Tout à
ou
fait.
De les renvoyer vers toi, si j'ai envie.
Quand t'as sur une tâche, et ben, hop, tu dévies.
Ok.
Tout simplement.
Ivan?
Mais c'est vrai que ça me fait penser, on a travaillé il y a longtemps, on a travaillé avec une société qui prenait les appels l'après-midi. Quand on est fermé.
Hein,
typiquement, ça partait sur cette plateforme qui récupérait effectivement tous les appels de l'après-midi et il nous faisait donc un retour. Donc il y a peut-être quand même un sujet justement pour l'après-midi.
À l'effet, à l'effet.
Je crois que t'as intéressé tout le monde. Voilà. Bon.
Ben, écoutez, j'allais vous demander quels sont vos objectifs de développement dans les prochains mois, chez là.
Ben alors, classe croûte, unique aux travaux. oui, ben nous, c'est continuer à nous faire connaître, à faire connaître notre service surtout, parce qu'on est plusieurs sociétés qui font la même chose sur toute la France. Sachant qu'en plus, oui, on est au téléphone, donc on peut travailler.
Oui, c'est ça, c'est
avec
multi,
toute la France,
voilà,
y compris les pays francophones à l'envie.
C'est un métier qui reste quand même probablement concurrentiel. Donc il faut arriver aussi à avoir une valeur ajoutée.
Ben, la valeur ajoutée, je parlais tout à l'heure de Doctolib, ben, et il y a l'IA aussi qui est là, qui commence à faire notre métier aussi.
Oui. Nous, c'est ça, l'humain. C'est épouvantable, l'IA, parce que, je veux dire...
Alors, pour l'instant, on récupère tout ce qui ne passe pas par l'IA. Mais bon, elle va vite évoluer. Mais nous, c'est l'humain, c'est l'écoute. C'est quelqu'un au bout du fil qui écoute, qui a des sentiments et qui comprend ce que vous dites et qui va essayer de régler le problème de la plante.
C'est ça, oui. Il y a un plus. C'est pas une simple... c'est pas de l'automatisme, quoi, en
non.
fait. Ouais, ouais, ouais. Ivan, vous vouliez poser?
Et adjoindre à ton activité une partie commerciale, c'est-à-dire faire de l'appel pour le compte de tiers.
Alors on le fait aussi, on fait tout ce qui est relation client, on passe les appels donc à la place des sociétés. Par contre on fait pas d'appel à froid, on fait vraiment que la base de données du client parce qu'il veut faire des relances de devis, des relances d'impayés.
Oui. Mais vous n'allez pas faire de prospection,
pas de prospection mais de la relance.
Voilà, de la relance ou alors proposer un nouveau service à ses clients. Il a déménagé donc il donne sa nouvelle adresse. Il organise une soirée, il invite ses clients, voilà. Mais
oui,
pas de la relance à froid.
C'est assez infini quand même. Oui, ce que vous voulez dire à froid, c'est que
on n'appelle pas au hasard.
Vous n'allez pas prendre une liste de personnes et puis appeler comme ça,
voilà,
sans connaissance. Oui. Oui, ça paraît.
Oui, ça, les gens en ont marre d'être dérangés. Quoi que ça pourrait amener du client, du coup, parce que pour pas être dérangé, il faudrait nous utiliser.
Bien sûr.
Joli.
Et vous pourriez vendre deux fois votre service.
Pourquoi la Tabab, Sheila?
C'est un peu comme Cyril. Je connaissais du monde qui m'a invité. J'ai été voir. J'ai aimé l'ambiance. Et c'est un groupe qui est pas. Alors, je fais partie d'autres réseaux qui sont un peu plus axés sur le business. Et là, je trouve que c'est, comme disait Julie tout à l'heure, c'est un peu plus sur l'entraide, le relationnel, la solidarité. Et c'est ça qui m'a intéressée. Voilà.
Oui. Et donc là, vous y êtes depuis quand, vous?
Là, c'est la deuxième année. Je suis rentrée l'année dernière, 2025.
Oui. Et donc vous avez rencontré des personnes intéressantes.
Oui, enfin, tout à fait. Oui, on discute pas mal aux soirées, enfin aux événements qui sont organisés, que ce soit les repas ou. Et on fait des visites aussi des autres membres.
Oui,
et c'est,
d'autres membres.
Ouais,
oui,
c'est très intéressant.
Vous êtes situé à quel endroit?
Alors nous, on est basé à Pontoise.
Pontoise, d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre, Sheila?
Non, je crois que...
On a fait le tour.
Je crois qu'on a fait le tour.
Bon, écoutez, en tout cas, merci infiniment Sheila Pereira, dirigeante du centre d'accueil téléphonique et relations clients de Pau. Merci pour ces explications qui montrent que la qualité de l'accueil et de la relation client est vraiment essentielle pour une entreprise. Donc, on ne le dira jamais assez. Merci infiniment.
Merci à vous.
Allez, on vous laisse profiter de quelques instants de musique. Et là, on écoute Mon fils, ma bataille avec Daniel Balavoine.
Je t'écoute démonter ma vie en pleurant. un enfant.
Écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Merci d'être resté avec nous. C'est toujours l'économie en direct. Et là, nous allons interviewer ma quatrième invitée, Julie Fabre Jabouri de l'agence Illico Travaux Montmorency. Après avoir écouté Cyril Coussergue, Société Fina Conseil, Ivan Quintrec, Société Classe Croûte. Et chez la Pereira Société de Pau, quatre membres de l'ADPAVAB. Julie, focus sur vous.
Allez.
Donc Julie, vous l'avez rappelé en début d'émission, en fait on s'était rencontrés dans l'hôpital d'Argenteuil suite au don qu'avait fait l'ADPAVAB.
Tout à fait.
Une cuisine thérapeutique, je me souviens.
Exactement.
Qui avait été très très appréciée, enfin qui est très appréciée par les... Par le
personnel. Autant par les soignants que par ceux qui en bénéficient, tout à fait. Ça a remis un petit peu de peps dans leur service rééducation. Ça leur donne envie de recuisiner. Donc il y a soit ceux qui sont dans la rééducation qui apprennent à faire un petit peu comme ils peuvent, et ceux qui viennent d'avoir un problème et qui sont nouveaux handicapés, qui ont peur et puis qui sont dans une situation où ils savent pas comment ça va se passer quand ils vont rentrer en effet chez eux. Mmh. Et là, de dire bon bah voilà, il y a des aménagements simples qui peuvent être faits pour chez toi et qui peuvent t'aider à continuer à cuisiner si t'aimes ça, ou quelque chose que t'aimais plus faire, que tu n'aimais pas faire spécialement, mais maintenant tu vas pouvoir le faire et peut-être que tu vas t'y intéresser un peu plus. Donc pour ça, ils sont ravis, oui.
Et c'est un petit peu le cahier des charges qui vous a été remis quand vous avez dû créer ce projet ?
Alors, en fait, le cahier des charges était simple. C'était de dire, on a un besoin principal qui est de avoir quelque chose qui est vraiment adapté à eux. Mmh. Donc à partir de là, moi mon métier c'est vraiment de suivre de A à Z le projet, donc de la définition du cahier des charges en effet jusqu'à la fin de jusqu'à la livraison au PV de réception de l'ouvrage. Et en fait c'était ça, c'était de dire trouve-nous les bonnes personnes pour réaliser ça. Donc on a eu un plombier, un peintre et ensuite principalement un cuisiniste qui fait du sur-mesure et donc qui a pu faire des meubles moins profonds, un peu plus bas, et d'avoir aussi le clou du spectacle de cette cuisine, c'était un évier qui permettait de monter et descendre, donc qui est accessible électriquement et qu'on peut utiliser pour invalide ou exactement. Des personnes, Donc si on est en fauteuil, on peut le baisser, et si on n'est pas en fauteuil, on peut le remonter.
Très bien. Alors j'ai commencé un petit peu
dans le vif du sujet.
Mais c'était intéressant. Vous êtes aujourd'hui dans un secteur en plein développement, la rénovation et l'accompagnement en travaux avec le réseau Hélico Travaux. Déjà, pourquoi ce réseau et qu'est-ce que le réseau Hélico?
Alors, en fait, Hélico Travaux, c'est le pionnier, le leader du courtage en travaux. Donc, c'est vraiment eux qui ont inventé ce métier en 2000. Donc, à l'époque, avec le fondateur qui était tout seul et qui avait eu un besoin pour lui en tant qu'étudiant d'une porte qui a claqué, le verre a fissuré. C'est vraiment, vraiment l'histoire. Le verre a fissuré et personne n'a voulu lui réparer son truc. Il y a trois artisans qui sont venus et qui l'ont dit, pour ça, c'est pas un chantier intéressant. On n'en veut pas, monsieur. Et donc, à l'époque, il a créé, ça s'appelait Hélico Service. Et vraiment, il s'est dit, je vais faire en sorte que même les petits chantiers, quelqu'un les prenne, quoi. C'est pas possible. On peut pas laisser des gens comme ça. Nous, on sait pas faire. Je peux pas réparer moi-même mon verre. Donc, il faut bien que je trouve quelqu'un. Et donc, il a lancé ça, donc, tout seul au début. Donc, vraiment, la partie courtage. Donc, c'est-à-dire vraiment la mise en relation. J'insiste dessus parce que le courtage, on a toujours dans l'idée que c'est de la négociation. La définition du courtage, c'est vraiment de la mise en relation. Et donc, il faisait ça tout seul dans son petit appartement étudiant et il cherchait des artisans qui allaient répondre à des besoins pour des particuliers ou des entreprises, mais principalement des particuliers quand il a démarré. Et c'est ça aujourd'hui le cœur d'Hélico Travaux, c'est de dire qu'il n'y a pas de petit chantier pour nous. Nous, on veut accompagner des gens, que ce soit un petit chantier ou un très gros chantier. Et de toute façon, en tant que chef d'entreprise, il nous faut autant de petits que de gros parce que c'est pas du tout la même gestion. Mais même en termes de gestion, c'est pas du tout la même chose. On va travailler sur une remise en peinture en 3 jours, on peut aller jusqu'à des extensions ou des surélévations où là, ça va durer 6 mois, peut-être 1 an même avec tous les délais administratifs qu'on a dessus. Donc, c'est pas du tout la même gestion, notamment au niveau de la trésorerie. Un projet qu'on encaisse en 3 jours et un en 8 mois, c'est pas la même chose. Donc.
Et vous êtes plutôt à la recherche justement de ces petits travaux ou plutôt des travaux plus importants?
Il faut vraiment les deux. Il faut les deux pour être bien. Et puis généralement les gens qui ont des petits travaux, c'est souvent des gens qui n'osent pas se lancer. Donc c'est des gens qui ont un projet depuis longtemps, mais qui se disent je sais pas à qui faire appel. Si je trouve un plombier sur internet, il y en a 15, il suffit que je tombe sur celui qui est pas bon et voilà, je vais avoir un problème. Donc c'est aussi le but d'avoir un intermédiaire comme moi aujourd'hui, c'est de dire Julie, ça fait 3 ans qu'elle est installée à Montmorency, donc elle sait exactement quels sont les bons artisans en local. Je travaille toujours en local parce que quand on a un plombier qui est à l'autre bout de l'Île-de-France, le temps qu'il arrive, quand on a une fuite, il n'y a plus d'appartement. Donc j'ai besoin d'avoir des gens sur lesquels je peux compter, proches de nous, proches de nos chantiers. Et voilà, c'est principalement le cœur de se dire aujourd'hui, il n'y a pas de petits chantiers, il y en a pour tout le monde. On est là pour tout le monde. On va aider certains. Il y a des fois où je fais plus de psychologie que de suivi de chantier, mais c'est très important pour certains d'être soutenus dans cette démarche. J'ai des gens qui voulaient refaire leur cuisine depuis 15 ans, par exemple. Elle a jamais réussi à se lancer parce que peur d'être dérangée, peur de pas trouver les bons, peur de tout en fait. C'est très angoissant de faire des travaux.
Je confirme.
Ouais. voilà.
Et comment on sait que Hélico répond à ses besoins?
Alors,
parce que moi, avant de vous inviter, je vous connaissais.
Je ne connaissais pas Illico.
Mais comme beaucoup, alors moi-même, avant de me lancer dans l'aventure, je ne connaissais pas Illico Travaux. Hein. Moi, je.
Donc, j'ai... comme Ivan, il faut
exactement.
Faire plus de visibilité.
C'est ça, mais
faut
c'est
faire
alors.
Des spots publicitaires on en fait. FM Radio.
Par exemple, mais on en fait déjà pas mal au niveau national. Donc, Illico Travaux, c'est une franchise hein, aussi, comme Classe Croûte. Et le, donc, c'est eux qui gèrent directement tout ce qui est publicité au national. Donc, il y a l'année dernière, c'était les 25 ans, 2025. Oui. Donc, il y a eu une grosse campagne, notamment en télé et en radio, sur des radios nationales. Et c'est pas mal, ça. Il y a eu pas mal de retours là-dessus. Ça donne une visibilité autre. Après, c'est vrai qu'en Ile-de-France, on est peut-être un peu moins sujet à ça. Il y a beaucoup...
Enfin, oui, il y a plus de concurrence.
Et voilà, vrai. Exactement. Et donc, Illico Travaux, il faut se dire que... Pour répondre à la question pourquoi Illico Travaux va le faire, parce que un, c'est nous qui avons inventé le métier. Deux, aujourd'hui, il a commencé tout seul. Aujourd'hui, on est près de 200 agences en France. Donc quand même, on est quand même un gros réseau. On est le premier réseau en nombre de franchisés. Et ensuite, il faut rencontrer les gens. C'est de l'humain. L'accompagnement travaux, c'est de l'humain. Quand on veut travailler avec des gens, c'est les gens qu'on embauche, c'est pas une marque. Souvent chez Illico Travaux et même les fondateurs disent, Julie, les gens qui achètent Illico Travaux, c'est pas Illico Travaux qu'ils achètent, c'est Julie quand ils t'ont rencontré sur le premier rendez-vous, c'est avec toi qu'ils veulent travailler. Bon, ok, il y a la caution.
En fait, c'est un peu le fil conducteur de l'émission, l'humain, puisque vous êtes tous dans cette même démarche. Hein.
Mais je pense que c'est aussi ce qu'on recherche tous dans la création, dans le service et dans l'accompagnement. On est tous les quatre dedans.
Et plus par rapport justement aux nouvelles technologies où on est en recherche de ce...
C'est ça. Moi, j'ai de la chance. L'IA ne pourra jamais remplacer mes peintres ou mes plombiers.
Oui, alors ça.
On a quand même des gens, et Covid aussi, hein, Covid a beaucoup aidé, des gens qui maintenant construisent tout seuls. Donc,
oui,
ils font
vrai.
Tout seuls. J'ai vu un tuto.
Oui, on déteste Instagram.
On aime Instagram, mais il y a des choses des fois sur Instagram mais c'est drôle parce que les gens s'en rendent compte tout seuls. Donc, j'ai eu un appel une fois pour me dire, j'ai fait un tuto sur YouTube pour pouvoir faire ma cloison, mais je me suis plantée, c'est pas droit. Maintenant, faut détruire. Et en fait, ça leur coûte plus cher finalement. C'est dommage. Appelez-moi tout de suite, comme ça sera plus simple. C'est un métier. C'est un métier. Peindre, c'est un métier aussi. Alors après, c'est le plus simple, on est d'accord, mais on peut voir une grosse différence quand même entre un peintre amateur et un peintre dont c'est le métier, sur les finitions notamment.
Mais alors vous, Julie, comment vous êtes venue chez Illico?
Alors, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la promotion immobilière, en direction communication et marketing. Et moi, c'est le manque de considération du client final qui m'a poussée à arrêter ce métier. Parce qu'en fait, quand vous êtes au service marketing, vous recevez tous les appels des clients pas contents. Et malheureusement, dans le neuf, il y en a. Voilà, donc des gens qui ont été livrés, leurs prises sont pas droites. Je parlais de la peinture, il y a des dégoulis de peinture un peu partout. Voilà, c'est pas clean, c'est pas net. Et en fait, on se dit, attends, on fait du sur-mesure, on fait du neuf, ça peut pas être pas clean. Donc moi, j'aimerais faire autre chose et voir ce qu'on peut avoir. Et je suis tombée sur Illico Travaux. Et pour moi, c'était vraiment d'être le juste milieu entre des artisans qui allaient être payés à leur juste valeur. Parce que pour la plupart, quand vous avez des artisans sur des gros chantiers qui sont en sous-traitance de sous-traitance de sous-traitance de sous-traitance, ils sont très peu payés puisque chacun prend sa marge.
Avec tous les risques qui vont avec.
Voilà, exactement. Et d'être à l'inverse, côté client, pour être à ses côtés et être sûr que le travail qui est effectué soit fait et je suis contrôleur des travaux finis et de voir en fait à chaque fois je me dis est-ce que moi je suis si c'était moi la cliente est-ce que je serais satisfaite en fait c'est moi c'est si ça me va pas c'est que ça n'ira pas à mes clients.
C'est ça en fait vous êtes allé dans cette direction et de toute évidence vous on sent que vous y êtes. Vous vous sentez bien et vous êtes très enthousiaste.
Je suis très épanouie dans ce que je fais aujourd'hui.
Ça fait combien de temps maintenant?
Ça fait presque 3 ans.
3 ans.
Ouais, ça fait presque 3 ans et je suis très épanouie parce que ça apporte beaucoup de choses. Encore une fois, humainement, je le remets dessus.
Vous
n'avez
pas que les retours désagréables, au contraire.
Non, au contraire, on n'a que des retours agréables et c'est bien parce que. C'est un service additionnel, donc forcément qui coûte un peu d'argent. Donc on a toujours cette pression de dire ok, je t'ai dit que j'allais être meilleure que si t'avais pris une entreprise toute seule de ton côté. Donc je dois me battre pour vraiment être meilleure et être sûre que tu sois satisfaite à la fin. Et donc c'est mon mantra au quotidien de me dire je me bats pour la satisfaction de mes clients.
Donc vos clients, ce sont à la fois des entreprises, mais des particuliers.
Beaucoup de particuliers. Oui. J'ai quelques entreprises, mais principalement des particuliers. Oui, ça va vraiment sur tous les projets. Hein, des pergolas bioclimatiques, des remises en peinture. Je travaille sur 4 extensions en ce moment, donc ça c'est très long parce qu'il y a les délais administratifs. Mais c'est les sujets les plus enrichissants intellectuellement parce qu'il y a beaucoup d'étapes et c'est
ça vous oblige à toujours vous remettre un petit peu en cause quoi, à vous améliorer
et puis à aller chercher beaucoup de gens autour. Enfin, c'est des gros projets qui nécessitent plein d'acteurs. Et en fait, quand on est tout seul face à ça, j'ai plein de gens qui m'appellent, qui me disent, ça y est, on veut déposer le permis de construire. Ok. Est-ce que vous avez fait une étude de sol? Est-ce que vous avez fait une étude structure? Est-ce que vous avez tous les papiers? Est-ce que vous avez les plans? Ah, bah non. Ok, on va reprendre à zéro et dans 3 mois, on pourra déposer le permis. Ah, 3 mois, c'est long. Oui. Mais malheureusement, il y a des délais qu'on peut pas, qui sont incompressibles et les gens sont perdus face à ça parce que c'est très compliqué.
Ça. Et puis, il y a ce qu'on aime faire et puis ce qu'on déteste. Hein. Il y a l'administratif qui peut vraiment prendre la tête.
Tout à fait. Et la manière de Sheila, moi j'accompagne aussi les gens là-dessus, sur les démarches, parce qu'ils ne savent pas où... Voilà, ils ne savent pas.
Donc aucun regret d'être allé dans cette direction.
Absolument aucun.
Alors je m'adresse à vous trois. Vous connaissiez Illico Travaux chez Ivan?
Oui, moi je connaissais parce que c'est à force de traîner sur les salons.
C'est vrai.
Je connaissais, mais j'ai pas fait. C'est vrai que j'ai pas fait appel, mais ça m'a interpellé récemment parce qu'on a échangé il y a pas longtemps. Et peut-être que pour un futur chantier, nous pourrions collaborer.
Avec grand plaisir.
Moi j'adore quand mes clients, pas mes clients, mes invités sont. Se retrouve. Et vous, Sheila, vous connaissiez Illico Travaux?
Maintenant, je connais.
Voilà.
Alors, j'avais fait appel parce que du coup, je connaissais pas, mais pourquoi pas dans un futur. Je suis en recherche de maison. Donc.
Voilà. Donc, et vous
Je connaissais du fait de la campagne nationale de l'an dernier, je crois. Mais je n'ai pas pratiqué, effectivement. Pas beaucoup de besoins à titre personnel, individuel.
Peut-être un jour. De toute façon, tout le monde connaît quelqu'un qui a des travaux à faire, donc normalement...
C'est exact.
Oui, c'est ça, le bouche à oreille doit fonctionner. Votre actualité, c'est que les beaux jours arrivent et qu'il est temps de préparer son été.
Exactement, il y a beaucoup de travaux qu'on aime. J'ai jamais autant d'appels que les premiers jours de beau temps en février. Dès qu'il y a un rayon de soleil, tout le monde dit « Ah, mais ma terrasse, il faut que je prépare ci, il faut que je prépare ça. » Et c'est très intéressant parce que c'est des projets, généralement, où les gens sont très impliqués et ont beaucoup envie de les faire. Donc, c'est moi mes projets principaux. Et puis, accessoirement, j'aime bien le soleil, donc j'aime bien travailler sur les projets d'été. Donc oui, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'on prépare l'été. Puisque des travaux, comme on le disait tout à l'heure, ça ne se fait pas en 3 jours.
En 3 jours, oui.
Et donc, il faut se préparer.
Et donc, vous faites, quand vous avez plusieurs chantiers, vous allez sur tous les chantiers régulièrement?
Je vais entre 2 et 4 fois par semaine sur les chantiers, parce que pour moi, c'est important de le suivre vraiment quasi quotidiennement. J'ai toujours un groupe WhatsApp avec les clients et les artisans aussi sur lesquels on peut se poser des questions, s'organiser, parce qu'on connaît tous l'artisan qui nous a dit « oui, je viens demain » et qui vient jamais. Donc ça, il n'y a pas chez nous, parce que je suis derrière à aller les chercher par l'oreille pour les amener sur le chantier. Je suis très proche de mes chantiers. C'est pour ça que j'en prends pas non plus trop, parce que je veux le faire bien.
C'est
et
ça,
que pour le faire
la
bien,
qualité,
voilà. Quand on en a trop, on se disperse et après il y en a trop.
Donc vous, c'est une franchise aussi. Vous avez, je vous pose un petit peu la même question qu'à Ivan. Vous avez dû débourser une certaine somme quand même pour vous installer.
Oui. Alors chez Illico Travaux, on est moins que chez Ivan, mais parce que on n'a pas, je pense qu'il y a toute cette partie stock aussi qu'il n'y a pas chez nous. Hein, nous, c'est ce que j'appelle du jus de cerveau.
Oui.
Hein, donc,
oui, c'est ça.
À part une agence physique et quelques goodies, tout le print qu'on doit avoir, mais sinon l'investissement, il est autour de 100-120 000 euros.
Ah oui, quand même.
Oui, en fait, il y a les droits d'entrée, il y a une formation au démarrage, et puis après, ils comptent, eux, la trésorerie, le prêt qu'il faut faire. Donc, c'est ce qu'il faut à peu près pour se lancer et pour avoir 6 mois de trésorerie devant soi, pour pouvoir le temps de démarrer l'activité et d'avoir les premiers clients qui tombent.
Et comme Ivan, vous pourriez avoir plusieurs franchises Illico?
Oui, il y en a qui en ont plusieurs. Alors, il n'y en a pas énormément. Mais j'en ai par exemple un qui était à Versailles, qui ouvre sa troisième agence aujourd'hui. Mmh. Ça fait 15 ans qu'il est dans le réseau, et c'est sa troisième agence. On a des grosses agences aussi à Toulouse. Voilà, il y a des points névralgiques où il y a des multi-agences, et on est sectorisé.
Vous êtes sectorisé.
Et on est contractuellement sectorisé. Donc après, au fur et à mesure, quand on veut se développer, on achète. Alors moi, mon secteur, c'est Montmorency, Enghien-les-Bains et Deuil-la-Barre.
D'accord. Oui. Donc ce qui te prouve aussi que sur 3 villes seulement, vous pouvez vivre largement.
Alors, j'ai personne autour. Je suis la seule Illico Travaux dans le coin. Le plus proche ensuite est à Colombes, donc on est un peu plus loin. Donc moi, j'interviens sur tout le 95.
Oui.
Et sur le 93.
D'accord. Oui, c'est ça. Vous êtes sectorisé, mais vous pouvez aller.
En fait, on est sectorisé
dans la prospection.
Mmh. Voilà. Je peux pas aller. Enfin, je pourrais d'ailleurs aller prospecter là où il y a personne aujourd'hui, mais moi, comme je le disais tout à l'heure, ce que je veux, c'est créer quelque chose de local, et donc je vais pas forcément aller me développer. J'en sais rien, à Arnouville. Bon. Mmh. Après, si on m'appelle, j'y vais. Si j'ai le temps, si je peux le prendre, je le prends. Il y a pas de souci. Mais moi, ma prospection, je vais plutôt la faire en local sur mon secteur, parce qu'en plus, si j'ai demain quelqu'un qui s'installe, toute la prospection j'aurais fait ailleurs, alors que je ne suis pas propriétaire du... Exactement.
Oui, je comprends.
Voilà.
Je crois que vous vouliez nous parler aussi du salon de la franchise
qui
s'ouvre demain.
Exactement, demain, donc tout le week-end et jusqu'à lundi, on sera au salon de la franchise. Exactement, donc sur le stand Illico Travaux, il y a toujours des franchisés. On essaye d'avoir tous les ans... ça fait 4 ou 5 ans, je crois, qu'ils le font. Moi, j'y suis allée les 2 premières années. Et c'est toujours intéressant d'avoir les retours des franchisés, parce qu'on le vit au quotidien. Donc, avoir les gens du siège qui animent, c'est bien. Mais quand on a un réseau qui, en plus, invite ses franchisés, et les franchisés qui sont contents de venir en parler,
bien sûr,
ça permet de voir les choses autrement.
Julie, pourquoi la PAVAB?
Alors là, de PAVAB, moi, ça fait 3 ans que j'y suis. Dès que j'ai commencé, en fait, j'ai rencontré via Initiative 95 à la Chambre des Métiers. J'ai rencontré quelqu'un qui était parrain et qui appartenait à la de PAVAB. Mmh. Et donc, il m'a invité une première fois. Et j'ai trouvé que c'était un réseau très professionnel, avec beaucoup de métiers représentés. Et comme le disait, je crois, Paula tout à l'heure, on n'a pas... on n'a pas cette pression business, c'est-à-dire que on n'est pas un BNI où tous les jours il faut avoir fait sa petite truc commercial. Là, c'est vraiment découvrir des gens, et pour moi, c'est la meilleure manière, en fait, de recommander quelqu'un, c'est quand on le connaît. Donc c'est pas quand on nous force à le recommander, mais c'est quand on le connaît et qu'on a envie de le recommander, parce qu'on sait que c'est quelqu'un avec qui on aurait envie de travailler. Et donc, on le recommande à quelqu'un. Donc, c'est ce que j'aime, moi, dans ce réseau, et c'est ce pourquoi j'y reste depuis 3 ans et que je compte y rester encore.
Vous avez envie de valoriser. Très bien.
Exactement.
Merci infiniment, Julie, pour votre témoignage. Hein, ça donne envie aussi d'aller dans l'illico. Bon, je vais changer de métier tous les jours. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit jingle? Allez.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
C'est l'économie en direct. Voilà, on est arrivé à la fin de cet échange que j'ai trouvé très très riche et très sympathique. Juste un mot de conclusion avant de nous quitter. Donc, on fait un tour dans le même sens, Cyril.
Ok, très bien. Eh ben, écoutez. Moi, dans le monde de l'assurance, en ce moment, c'est les problématiques de transport maritime, avec certaines zones déclarées zones de guerre. Donc, quand j'ai des clients, voilà, qui m'appellent et qui me disent, il est où mon bateau? Bah, je suis pas capitaine de votre bateau, je sais pas où il est. Par contre, je peux vous dire, c'est que pour qu'il sorte du détroit d'Ormuz, ça va vous coûter 4 fois le prix d'habitude, ou 10 fois, ou 50, ou 1000 fois, etc. Et donc, il y a une technique autour de tout ça. Il faut faire attention à ce genre de dépenses totalement imprévues auxquelles les entreprises ne peuvent pas grand-chose, sauf si elles ont réfléchi à leur contrat d'assurance correctement avant. Voilà. Donc c'est l'exemple géopolitique du jour.
Merci Cyril. Yvan.
Eh bien, commandez Classe-Croûte, nous sommes toujours là à votre service. Et rendez-vous au Salon de la franchise pour ceux qui sont intéressés par l'entreprise.
Merci Yvan Catrec. Sheila.
Je vais reparler de mon métier, mais voilà, j'ai l'habitude de dire, quand on teste Depo, on l'adopte. Donc, pour la gestion de vos appels pro, faites appel à Depo.
Voilà, essayez, c'est l'adopter, c'est ça, c'est la formule.
Tout à fait.
Merci Sheila. Et vous, Julie?
Et moi, tout le monde connaît quelqu'un qui a des travaux à faire, donc quand vous pensez travaux, pensez Illico, et on sera là pour répondre à tous vos besoins de projet.
Très bien, écoutez, une formule toute trouvée. Merci Julie. Merci en tout cas à tous les quatre pour vos témoignages, vos éclairages, et puis vous nous avez fait part de vos réalités économiques et entrepreneuriales d'aujourd'hui. C'était très intéressant. Je remercie aussi notre partenaire, la PAVAB, pour son soutien à cette émission. J'ai envie d'ajouter que l'économie sont avant tout des femmes et des hommes engagés, des entrepreneurs passionnés et des initiatives qui font avancer notre territoire. Merci Nicolas et Enzo pour la technique. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Cette émission vous a intéressé, donc n'hésitez pas à la partager avec votre entourage sur vos réseaux. Retrouvez son podcast sur IDFM Radio, sur idfm98.fr. Et nous, on se retrouve mardi pour une nouvelle émission de l'économie en direct. Mais surtout, n'éteignez pas votre radio. Restez sur notre fréquence. Les programmes continuent. Et voilà, on vous souhaite une belle journée, un bon week-end.